c'est Mathieu Biller, bienvenue sur Europe 1. Je suis, vous le savez, chef de la matinale, mais disons-le, pas seulement, excusez-moi d'être un peu présomptueux, mais je suis aussi chef de gare, puisque, je le redis, il y a des bêtises qui ont été dites à l'antenne, on ne va pas à Deauville par la gare de Lyon, on part de Saint-Lazare, et c'est Voie Douce que ça se passe.
Oui, c'est Monsieur Régis, je confirme les propos de Monsieur Béliard, on ne va pas à Deauville par la gare de Lyon. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est Saint-Lazare pour Deauville. On part de la voie 12, départ 9h14. Voilà, ça c'est du boulot.
Merci, monsieur, je résiste, je savais. On est quand même, il faut le dire aux auditeurs, on a une matinale d'infos, c'est carré. On dit pas n'importe quoi à l'antenne. Viens, on part à Deauville par la gare de Lyon, c'était n'importe quoi. Quand il y a une connerie qui est dite, je la révèle. Enfin, dès qu'il y a une connerie, je la dis, quoi. Bon. L'info du jour, allez, on passe. C'était mon petit coup de gueule ferroviaire.
Violent, hein, le coup de gueule.
J'adore ferroviaire parce qu'il y a trois rires. L'info du jour, c'est Jean Castex, notre premier ministre, qui a déclaré hier sur TF1 que le terrorisme était un ennemi et que cet ennemi va le trouver sur son chemin. Oui, enfin, monsieur le Premier ministre, il nous cherche à nous, pas à vous, sur son chemin. Il nous a déjà trouvé, donc il n'est pas encore au point, le Castex. Et puis l'autre info, c'est le début de la première semaine de reconfinement. Début de première semaine de reconfinement. On a fait que 3 jours de reconfinement. De confinement, Julie, je tiendrai jamais. On va pouvoir donc sortir uniquement pour aller travailler, uniquement pour faire les courses, uniquement pour aller chercher les enfants à l'école. Mm-hmm. Oui, en fait, c'est pas du tout un confinement. C'est juste la vie d'un homme marié qui vit en Normandie, qui part donc pour la Normandie de Saint-Lazare.
Ah, bravo. Allez, aujourd'hui, c'est donc la rentrée. Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Mmh. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Julie. Effectivement, bonjour, monsieur Béliard. Pardon, monsieur Cabrol. Effectivement, les enfants retournent à l'école. Mmh. Monsieur Béliard doit donc être soulagé. Car. Trop d'enfants ont décroché la première fois. C'est la seule condition, voilà, pour qu'ils reprennent. Pardon, la seule condition, c'est qu'ils aient bien sûr un masque. Nous l'avons dit dès l'âge de 6 ans. Personnellement, pour être sûr qu'ils le gardent, je recommande d'acheter une agrafeuse à tous les parents.
Oh là là, quelle horreur ! Aïe, on a mal. Alors, comment parler du Covid aux enfants ?
Écoutez, je crois qu'il faut être pédagogue, adapter les exercices, par exemple. Nous avons prévu un exercice pédagogique dans toutes les classes de primaire. Pierre va au marché pour acheter 6 pommes. Pendant 10 minutes, il a son masque sous son nez. Il rencontre 4 personnes cas contact. En une demi-heure, mais seulement la moitié s'est lavé les mains.
Oh là là.
Au bout de 2 heures, combien de clusters Pierre a-t-il créé? Voilà un sujet qui me paraît adapté à la situation.
Non, mais ça ne va pas angoisser les petits de leur parler du Covid tout le temps comme ça, hein?
Si, mais nous avons prévu, je comprends que ça peut être une situation angoissante, mais heureusement nous avons prévu, dans un souci pédagogique, nous avons prévu autre chose, pour ne pas trop stresser les enfants. On va leur parler de l'assassinat de Samuel Paty.
Oh là là.
Vous voyez, il faut être pédagogue, varié et divertissant.
Oui, merci monsieur le ministre.
Ça reste des enfants. On peut aussi leur parler de la gare Saint-Lazare, c'est un sujet sur la distance, l'heure...
Après l'attaque terroriste de Nice, Éric Ciotti a demandé, je cite, à changer de cadre juridique et à arrêter avec ses pseudo-défenses des libertés individuelles. Fin de citation. Bonjour monsieur Ciotti.
Oui, bonjour madame Julie. Écoutez, un peu de sérieux dans cette émission ne ferait pas de mal. Écoutez, on ne peut plus tolérer un certain nombre de comportements sur notre territoire. D'autant que le gouvernement, vous le savez, n'a rien fait.
Ah tiens. Hein,
vous voyez, ça fait écho, même la rédaction d'Europe 1. Gérald Darmanin se contente de, nous l'avons compris, de belles phrases, de dissoudre des associations, voilà, bon. Mais nous, les Français, vous savez, veulent du concret. On veut voir Monsieur Darmanin coller un mawashigeri ou une balayette à un imam radicalisé. Ça, c'est du concret.
Alors, qu'entendez-vous par changer de cadre juridique et arrêter avec ces pseudo-défenses des libertés individuelles ? Expliquez.
Écoutez, nous sommes trop complaisants, nous sommes trop concomitants, nous sommes trop cons, tout ce que vous voulez. Non, mais oui, mais il faut dire les mots à un moment donné. Désormais, tout individu soupçonné de recevoir, par exemple, de l'argent d'État soutenant le terrorisme ne doit plus être présumé innocent, mais coupable.
Ah,
c'est une nécessité.
Ça parle à quelqu'un, ça, je crois.
Voilà. Et non, mais pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi de Mimis. Oui, j'adore Mimisquer. Non, pardon. Non, excusez-moi, je m'adresse à Eric. Eric, quand tu dis tout individu soupçonné de recevoir de l'argent d'État soutenant le terrorisme doit être présumé coupable, Tu penses pas ce que tu dis. Parce que, non, il pense pas ce qu'il dit. Non, parce que ça pourrait concerner des innocents aussi. Imagine, si quelqu'un est accusé de lien, je dis au hasard, avec la Libye, par exemple.
Eh bien, cher Nicolas, il faut le mettre en prison sans procès, lui retirer sa nationalité française, voire même le mettre nu sur un pilori, sur une place publique, et laisser les gens lui uriner dessus. C'est un minimum aujourd'hui, mais c'est un minimum. Il y en a assez de cette justice laxiste, je le dis.
Oui, donc il est con. Non, il ne comprend pas où je veux en venir. Non, Eric, regarde-moi dans les yeux, Eric. C'est important, la justice. C'est notre démocratie héritée des Lumières. Tu sais, moi, je suis très attaché aux voleurs de la République. Et les valeurs, on a rectifié, un garde-lion, Garcet Lazare, voleur, valeur, on est sur le même registre. Donc, je dis, vive les procès équitables.
Non, cher Nicolas, dans un procès, le coupable s'arrange toujours pour faire traîner les affaires. On la connaît, la musique, hein, pour soulever des points juridiques tordus qui empêchent de le condamner. C'est toujours la même méthode.
Mais c'est ça qui est formidable. C'est ça qui fait, Eric, franchement, c'est ça qui fait la grandeur de la justice. Je dis vive les juges. Voilà, putain, je ne me serais jamais cru capable de dire ça.
Ah bah oui, ça.
2020, c'est vraiment n'importe quoi, c'est plus où qu'on va, Mme Julie. Hein.
Ah bah tiens, puisqu'on vous tient, M. Sarkozy, une réaction sur le reconfinement, sur la façon dont les Français le vivent?
Oui, écoutez, je suis comme Valérie Pécresse, je ne vais pas jeter la pierre au gouvernement. Je ne veux pas accabler Emmanuel Macron, qui fait un travail difficile, mais à sa place... C'est vrai que j'aurais juste permis au moins l'ouverture des librairies et des commerces qui vendent de quoi liser. Parce que vous savez, liser, c'est essentiel dans l'épanouissement d'un homme. C'est ce qui permet le cultivage général.
Comme vous dites, oui.
En plus, ouais, plutôt que de rire bêtement, vous ferez mieux de liser, Madame Julie. Hein, de liser votre texte et vous en tenir à ce qui a écrit sous votre feuille. Parce que, en plus, mon livre à moi... Ma vie dont j'ai assuré le... Je raconte ma vie. J'ai assuré moi-même le rédigeage de ce livre. C'est une excellente idée pour liser pendant le reconfinement.
Ah bah,
parce qu'on a
idée.
Du temps.
Oui, c'est ça. Merci à vous, M. Sarkozy. À bientôt. On a tous vu ce week-end la photo d'un supermarché avec ce panneau. Vente de livres et de disques interdites. Bonjour Roselyne Bachelot.
Oui, écoutez, ça va. Écoutez, arrêtez.
Bah, franchement, quand on lit ça... Hein.
Non, mais arrêtez avec tout ce patacas, il n'y a pas que la culture dans la vie,
mais
franchement.
Enfin, vous êtes ministre de la culture, accessoirement, Roselyne Bachelot.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est important. Oui, alors c'est important la culture, j'avais oublié. Oui, c'est important la culture dans la vie, mais bon, il y a tant de Français, Mme Julie. Il n'y a pas tant. Vous croyez qu'il y a tant de Français que ça qui achètent des livres qui... Bah, non. Moi, j'avais même l'impression de vivre dans un pays peuplé. Non, j'avais pas l'impression de vivre dans un pays peuplé de Bernard Pivot, franchement.
Ne soyez pas insultante, ni avec Pivot, ni avec les Français, d'ailleurs.
Non, mais franchement, Mme Julie, comme si les Français lisaient, ça se saurait. Ça fait combien de temps que je n'ai pas vu quelqu'un avec un livre dans le métro ou dans un parc? À côté de ça, vous avez vu les scores d'audience des Marseillais sur
W9? Oh non, arrêtez, voilà.
Mais oui, c'est ça que les gens aiment. Les Marseillais sur W9, et d'un seul coup, les téléspectateurs des Ch'tis à Mykonos, vous voudrez acheter du Marcel Proust? Non, je n'y crois pas. À qui voulez-vous faire croire ça? Non. Donc non, les librairies restent fermées, et puis c'est tout.
Non, mais vous comprenez quand même que ça puisse choquer, que les magasins de bricolage soient ouverts et pas les librairies quand même.
Eh bien écoutez, il y a des solutions à tout. Moi je le dis aux Françaises et aux Français qui veulent absolument lire, ben achetez une perceuse à Leroy Merlin et lisez le mot mode d'emploi. Oui, mais vous savez, derrière chaque mode d'emploi, il y a un homme qui a écrit ou une femme qui a écrit ce mode d'emploi. C'est un auteur comme un autre. Respectez-le.
Il traduit en 25 langues.
Oui, souvent, oui. On tombe sur les pages en tchèque, en général. Merci beaucoup, Roselyne.
Je vous en prie.
Et puis, on va finir avec un mot de sport. En terminant deuxième du tournoi Destination, l'équipe de France de rugby laisse entrevoir un avenir radieux, Bernard Laporte. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tout le pack. Bonjour à Laurent Cabrol, à Mathieu Béliard, à toi, à moi, Julie. C'est quand même pas de bol. Pour une fois que l'équipe de France est bonne, tout le monde s'en fout. On parle que d'islamisme et de Covid. Ça ne passe pas. Hein.
Alors, pourquoi elle est meilleure, cette équipe de France?
Justement, et a fortiori, grâce au confinement et aux attentats. Hein, eh bien, imaginez un peu un rugbyman français, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé chez lui, un bébé de 150 kilos, testostéroné, enfermé dans une pièce de 48 mètres carrés, qui tourne en rond et qui voit des agressions en boucle sur BFM. Forcément, quand tu lâches sur un terrain, c'est une boucherie. Hein, c'est un lion qui n'a pas becqueté depuis 3 jours. C'est Mathieu Béliard quand on confond la gare de Lyon et Saint-Lazare. Ça le voit en boule.
Saint-Lazare, bois 12.
Merci Régis. Bref, notre rugbyman français, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est étriper du gallois, plaquer de l'anglais, éviscérer de l'irlandais.
Oui, on a compris. Oui, merci Bernard Laporte.
Déboîter
merci.
De l'italien, émasculer de l'écossais.
Oui, c'est bon.
Mathieu Béliard, from Europoint. Et oui, vous l'avez compris, chers auditeurs, je gère mes premières élections américaines à la radio. C'est pour cette raison que je suis sur place dans le 15e arrondissement. Voilà. Alors pour me mettre dans l'ambiance, j'ai quand même, chers auditeurs, j'ai quand même commandé une boîte de 20 nuggets et une grande frite. Voilà. Mais vous l'aurez remarqué, et j'ai fait l'admiration de toute la rédaction, j'ai eu le scoop, the scoop, il faut bien le dire, j'ai interviewé John Bolton. John Bolton, l'ancien conseiller de Trump, très proche de Trump, c'est vous dire s'il est bien placé pour nous dire combien l'autre est con. Voilà. L'info du jour, ce sont les attentats. Hier soir, à Vienne, notre président Emmanuel Macron a déclaré « Nous ne céderons rien ». Oui, mais de toute façon, Manu, ça se passe en Autriche, donc t'as pas grand-chose à céder. Déjà qu'il gère moyen en France, il va pas commencer à culpabiliser pour les ratages dans les autres pays. Et puis on finit avec un triste record. 7 milliards, et oui, 7 milliards de vues pour la chanson « Baby Shark ». Mon cœur de... Je dois vous dire, mon cœur de guitariste quasi professionnel saigne tous les jours. Et oui. Covid, attentat et maintenant bébé requin, l'actu est vraiment insoutenable aujourd'hui.
Ça, c'est pas possible.
7 milliards de vues.
Pire que la Reine des Neiges, ce truc. Allez, la polémique. Merci Mathieu. La polémique autour de l'ouverture des petits commerces n'est pas calmée. On va en parler avec Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. À toutes et à tous, oui. À celles et ceux et celles. Aux coiffeurs qui coiffent, aux esthéticiennes qui esthétisent, aux bouchers qui bouchent, aux charcutiers qui charcutent.
Oui, bon, on va pas tous les faire, hein, s'il vous plaît.
Oui, mais comme tout le monde râle, je suis obligé d'avoir un petit mot pour chacun. Aux plombiers qui plombent, aux libraires qui livrent.
Oui. Alors peut-être déjà un mot sur les attentats de Vienne. Hein. Que faut-il faire, Monsieur le Président?
Mais que faut-il faire, chère Julie? Que faut-il faire? Ben, personnellement, moi j'ai fait. J'ai tweeté, vous l'avez remarqué. Voilà, bon, je vous avoue qu'à force de tweeter qu'ils ne passeront pas, ils ne passeront pas. Et après, où chaque fois on se rend compte qu'ils passent, que les terroristes sont un peu passés, j'ai peur qu'à la longue de passer pour un con.
Ah bah ça, c'est vous qui le dites. Hein. Allez, on revient à la pandémie, un coup dur pour les commerces. Bien sûr, même les coiffeurs et les esthéticiennes ne peuvent pas travailler chez les particuliers pour ne pas créer de concurrence déloyale.
Voilà, exactement. Mais en même temps, pourquoi vous auriez besoin d'être beau? Vous allez passer de toute façon. Soyons réalistes, vous allez passer 4 semaines minimum enfermés chez vous. On s'en fiche que vous soyez moche, franchement.
Écoutez, bon. En tout cas, certains d'entre nous sortent quand même pour travailler. Tenez-nous à Europe 1, par exemple. Voilà.
Comment ça, Europe 1?
On sort de chez nous.
Ah, pardon, parce que vous, donc vous insinuez, enfin, Monsieur Béliard, donc c'est fait beau ce matin, donc c'est ça. Non, mais désolé, Monsieur Béliard, franchement, je croyais que vous aviez renoncé à tout effort de. Je croyais que vous aviez renoncé à tout effort de beauté ou de coiffure par solidarité.
Allez, bon. Allez, direction les États-Unis. Maintenant, un mot de la vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris. Beaucoup disent qu'en raison du grand âge de Joe Biden, elle pourrait, en le remplaçant, devenir la première femme présidente noire. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame. Ah. Et bonjour joli métis.
Allez.
Bonjour monsieur Cabrol, bonjour Bobby Mustapha.
Bobby Mustapha.
Ah oui, Bobby, ben oui, Bobby, comme dans Damas, dans l'univers impitoyable.
Ah, fallait oser là.
Mais écoutez, les États-Unis sont quand même, disons-le, une terre de contraste incroyable. Et pour leur président, ils sont capables de passer d'un gros blond raciste à cette femme noire, là, Kamala Harris.
Non, Kamala. Kamala Harris.
Oui, Kamala, ouais. Kamala, oui, peu importe. Écoutez, je dis au peuple français, inspirez-vous des Américains, bon sang. Faites directement un mix des deux, Élisée, une femme forte, blonde et raciste. Et je le dis avec force, make France raciste on time.
Oui, bon.
Pensez-vous bien l'anglais, monsieur Béliard.
Merci Marine Le Pen. À partir d'aujourd'hui, les hypermarchés n'ont donc pas le droit de vendre de produits non essentiels. On est en ligne avec le Premier ministre Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Mohamed et Monsieur Cabrol. Écoutez, excusez-moi cette liaison un peu délicate, je suis sur le terrain, j'ai tenu à y être pour cette première journée. Je suis donc à l'heure où je vous parle, en effet, dans un shopping. Commerce quelque part de proximité et grande surface, néanmoins à taille humaine, afin de veiller au respect des consignes. Attendez, un instant, j'ai une annonce à faire. Chères adhérentes, chers adhérents, chers clients, votre magasin vous informe que les rayons non essentiels sont désormais fermés. Les rayons alimentaires, eux, restent ouverts. Exemple, l'huile, c'est essentiel, mais les huiles essentielles, ce n'est pas essentiel. Démerdez-vous avec cela. Bon shopping chez Shopee.
Oh, remarquable cette intervention. Alors, monsieur Castex, les petits commerçants vont quand même avoir des difficultés, avouez-le.
Certes, je vous entends, mais écoutez, nous avons fait le maximum pour faire en sorte que tout le monde soit, en termes d'égalité, c'est important que tout le monde soit dans la même panade à un niveau équivalent. Et c'est important, attendez. Voilà. Chères adhérentes, chers clients, offrez-vous un confinement gourmand avec le fromage à raclette Grabidou Gourmand. Grabidou Gourmand, eh oui, c'est le moment de grossir en mangeant sans culpabiliser. Profitez de cette période où personne ne va vous voir pendant 8 mois pour prendre du cul en toute décontraction. Au diable, le summer body, nous sommes en novembre avec la raclette Grabidou Gourmand. Un petit plaisir pour votre bidou à retrouver au rayon fromagerie de votre magasin.
Oh, l'accordéon.
Vous voyez, Madame Julie, le gouvernement ne laisse pas tomber les consommateurs.
Eh bien, merci, Monsieur le Premier ministre. On est rassurés. Olivier Véran l'a déclaré dans le JDD, cette année, Noël ne sera pas une fête normale.
Mais repentez-vous.
Voilà, lui.
Repends-toi, quoi, lui créante, mais repends-toi. Julie Leclerc, repends-toi, Olivier Véran, oui, bonsoir à tous. Repends-toi, car Noël n'a jamais été une fête ordinaire, comme tu dis, ordinaire, espèce d'hérétique. Noël, c'est la fête, the fête, comme dirait Béart, the celebration. C'est quoi Noël? C'est l'anniversaire de Jésus. C'est autre chose que la fête des grands-mères, l'anniversaire de ta tante Sylvie ou l'Aïd d'El Machin, Kébière, là, ou je ne sais quoi.
Ouais.
Le truc des Mohamedans.
Bon, écoutez, de toute façon, Olivier Véran.
Mohamedans.
De toute façon, Olivier Véran n'a pas dit que Noël était une fête banale. Il a dit que ce Noël ne serait pas un Noël normal.
Mais au contraire, femelle. Ce sera la première fois qu'on aura un Noël normal depuis Louis VI le Gros. Hein? Non, et plutôt de ricaner. Tu sais ce que c'est qu'un Noël normal?
Ah bah non, c'est quoi un Noël normal alors?
Mais c'est prier. Prier 8 heures d'affilée devant une crèche. Et les genoux ensanglantés. Et ensuite se flageller les épaules avec une ceinture en cuir en demandant pardon pour tous ces péchés. Dieu sait que tu en as à te reprocher les péchés. Pas de tentation consumériste idiote cette année.
Eh ben, vous parlez d'un Noël, vous, franchement.
Oui, mais parle d'un Noël. Mais c'est comme ça qu'on fait chez moi, chez nous. On ne se gaffe pas avec des dindes au marron.
Hein, on mange un humble morceau de pain.
C'est ça, ouais.
On ne, oui. Ben on ne met pas des lutins en plastique sur le praliné de la bus. Non, on marche. Oui. La seule qui respecte cette tradition, c'est qui ne respecte, ouais, c'est Fanny Agostini. Elle ne met pas, je peux vous garantir, elle ne met pas de lutins en plastique sur le praliné de la bus. C'est pas le genre de la maison.
Oui, bon, alors, non. Enchaînez.
Non, non, nous, on marche dans la neige pour expier ses fautes.
Oui, là, c'est oui. Carrément digression.
Vous êtes déjà passé
un
réveillon chez Fanny Agostini. On bon marche alors. Dans la neige oui. Pour expier ses fautes.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, mais on n'offre pas des Playmobil de l'espace, là, commandés sur Amazon à des enfants obèses et trop gâtés.
Oh là là, le cauchemar, mais ouf.
Moi, mes enfants, à Noël, j'aurais toujours offert une petite mandarine sans pépins. Et une Bible, avant de les obliger à regarder un crucifix pendant toute la nuit. Voilà. Ça, c'est un Noël normal. Oui, voilà. Je voulais racheter une phrase, mais je ne l'ai pas.
Allez, c'est déjà un joli programme.
Oui, ouais, c'est bon, on a bien compris le Noël chez les De Villiers. Hein, chez les Villiers. Merci beaucoup, monsieur De Villiers. Arnaud Montebourg sort un livre intitulé L'engagement. Bonjour, monsieur Montebourg.
Oh, salut la compagnie, salut la Juive, c'est le Béliard de Saint-Lazare. Oui. Il faut suivre les épisodes de...
Ah bah oui, on en parlait hier, oui.
Notre chronique, c'est une série. Et oui, tu sais que je sors un livre. Je sors un livre et paf ! Toutes les librairies du pays qui ferment.
C'est vraiment pas de bol. Hein,
t'as vu le sens du timing du nono ? Oui, j'ai pas de bol. Ben, l'invention du livre, c'est quoi, Mathieu ? C'est 15e siècle, c'est quoi ? C'est Gulliver.
Oui,
c'est Gutenberg, oui, enfin, c'est les mêmes.
Gulliver.
Oui, on n'est plus à ça près. Oui, je sais plus. Bon, bref, c'est jamais arrivé en 500 ans, 5 siècles que les libraires ferment pas. Il faut que je me prenne une pandémie mondiale pile quand je sors mon bouquin. Je crois que j'ai pas le pif pour le business. Ça me rappelle quand j'avais sorti mes glaces en plein hiver. Tu sais,
la même ère.
Dire que j'ai été ministre du redressement productif. J'avais lancé ma mémère, oui. J'avais changé mes glaces à mes mères. J'avais sorti ça alors qu'on se caillait tous les miches. Résultat, au début, personne ne voulait lécher ma mémère.
Oh, écoute, ça, c'est pas de chance, en effet. Hein.
Par contre, je vais te faire une confidence. Mm. Parce qu'il ne faut pas se flageller, s'auto-flager. Par contre, au niveau du miel, ça cartonne. Pour dire qu'avec une pandémie, tout le monde se fait des grogues. Là, pour le coup, j'ai bien senti le truc. Tu vois, je peux te dire que ça bosse à bloc. J'ai des abeilles qui bossent H24. On dirait des gamins chinois dans une usine de Nike.
Attendez, on va revenir à votre livre. On peut l'acheter en ligne, ce livre, monsieur Montebourg ?
Bah oui, tu peux aller l'acheter sur Amazon.
Oui.
Donc moi, Arnaud Montebourg, finalement champion du Made in France, je m'en vais encore aider les ricains à se faire des roubignoles en or. Ça dit, c'est pas sûr non plus que j'en vende 15 millions. Pas sûr.
C'est un peu paradoxal tout ça. Alors parlons du contenu. Ce livre est surtout une charge très violente contre François Hollande, hein, que vous présentez comme un menteur, un cynique qui a fait des promesses de campagne et a immédiatement changé d'avis en imposant l'austérité et l'augmentation des impôts aux classes moyennes.
Je vais te faire une confidence, Julie, parce que je t'aime bien. Je vais te donner un scoop. Ouais. Le livre... Mon livre, je voulais l'appeler Hollande le gros nul. Et puis mon éditeur m'a dit que faire 400 pages pour que ma grosse révélation, mon énorme scoop, c'est Hollande est nul, ça valait pas le coup. Tout le monde s'en était déjà aperçu depuis 7 ans. Alors finalement, j'ai appelé ça l'engagement. Voilà, c'est plus neutre. Bon, de toute façon, je suis pas sûr qu'ils se vendent mon livre.
It's Mathieu Billiard from Urbouane. The new of the day. C'est l'élection américaine. Oui, vous l'avez compris. Je reprends ma langue maternelle. Et chers auditeurs, vous êtes perdus. Je vous comprends un petit peu, mais rassurez-vous. Nous allons sur Europe 1 tout vous expliquer. C'est assez simple. Si Joe Biden l'emporte dans la Pennsylvanie et que Trump perd le Connecticut, ce que nous disait notre envoyé spécial, même si c'est vrai qu'il faut attendre les résultats du Michigan, eh bien, il faudra attendre les résultats de la Caroline du Nord. Autre exemple, l'Ohio. L'Ohio peut tout faire basculer si jamais Trump l'emporte, mais comme l'Ohio n'a jamais fait remporter une élection depuis 106 ans, on a parlé avec notre envoyé spécial, y compris avec des grands électeurs, il faudra se reporter sur la Floride et l'Arizona qui ont fait passer les républicains démocrates. Vous voyez, c'est
Oui, mais quand on prend une vision globale et qu'on prend peu de hauteur, c'est assez simple. Et puis, l'autre news of the day, c'est le duel entre Trump et Biden qui pourrait ne pas être tranché avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Oui, c'est la même info, en fait.
Ah oui,
C'est fou d'attendre aussi longtemps pour avoir un résultat. C'est dingue. En fait, cette élection américaine, c'est pas une élection présidentielle, c'est un test PCR. La dernière info, the last news of the day, c'est la liste des produits non essentiels. On va revenir un petit peu en France parce que ça nous occupe aussi. C'est la liste des produits non essentiels qui a été publiée et seront retirés des rayons des supermarchés. Ça va être sympa, Noël, Christmas, cette année. Hein, un flacon de shampoing pour la petite, un chou-fleur pour le petit et du pain de mie pour ma femme. Voilà. Au moins, je ne sais pas si ça leur plaira, mais on fera des économies.
Très glamour ce Noël. Allez, merci Mathieu. On ne sait toujours rien du résultat final des élections américaines. C'est très, très serré. Joe Biden a pour l'instant une très courte avance. Jean-Michel Apathy, si c'est Biden, ça va changer quoi en termes de politique internationale?
Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Elle me demande ce que ça va changer, mais elle est folle celle-ci. Mais ça va tout changer, tout, ma chère Julie. Les échanges commerciaux avec la Chine vont reprendre. Les accords de Paris sur le climat vont reprendre. Il n'y aura plus de vente d'armes. Robert De Niro va refaire des bons films. Le coronavirus va s'arrêter. On va fêter Noël normalement. Kin V ne sortira plus de disques. Mes cheveux vont repousser. Tout va changer.
Vos cheveux vont repousser.
Tout va changer.
Mais dites-moi, vous êtes sûr que ça a un lien avec Donald Trump, là, tout ce dont vous parlez?
Écoutez, en attendant, les journalistes... Non, c'est vrai. Les journalistes, j'avais l'impression que tous les mots de la Terre venaient de Donald Trump. Donc, maintenant qu'il dégage, logiquement, d'après tous les mêmes journalistes, c'est le retour des 30 glorieuses.
Eh bien, on l'espère tous. Merci beaucoup, Jean-Michel. Il y a quelqu'un qui connaît bien, qui a bien connu Joe Biden, car il a travaillé avec lui quand il était vice-président des États-Unis, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, M. Sarkozy.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. J'ai envie de dire merci de me welcomer, comme on dit à Washington.
Oui, bien. Washington.
Vous savez, quand vous m'avez invité sur votre plateau, j'ai tout de suite dit oui.
C'est commenter la vie politique qui vous manque tant?
Non, j'ai tout de suite dit oui, non, parce que c'est pour avoir l'attestation de travail et pouvoir me barrer de chez moi. Non, parce que Carla qui chante 20 heures sur 24, vous savez, c'est pas facile à vivre.
Alors, vous avez travaillé avec Joe Biden de 2009 à 2012, hein, quand il était vice-président d'Obama. Comment vous l'avez trouvé à l'époque?
Comment je l'ai trouvé? Vieux.
Déjà?
Oui, déjà à l'époque, il était très vieux, ce monsieur, faut le savoir. Hein, je me souviens, je vais vous parler d'une anecdote, je me disais tout le temps quand je le voyais, mais c'est qui ce vieux monsieur à côté d'Obama? Je me posais la question, je me disais, c'est quand même pas son grand-père.
Barack Obama, qui était à ses côtés cette semaine, hein, dans un gymnase, et qui a marqué un panier de basket. Hein, on a vu un panier de basket à 3 points, d'ailleurs, une vidéo qui a fait le tour du monde. Vous avez déjà joué au basket, vous?
C'est très drôle comme question, même Julie. Très marrant, ça vaut lourd un peu en ce moment. Hein.
Bon, alors, parlons d'autre chose. Un mot de votre mise en examen, par exemple, pour association de malfaiteurs.
Vous êtes sûr que vous voulez vraiment parler de ça? C'est parce que c'est pas l'actu. On peut parler basket. Vous voulez pas qu'on parle plutôt de foot? Voilà.
Si vous voulez, allez. Un livre vient de sortir et qui dit que vous êtes à l'origine du rachat du PSG par le Qatar, pays dont vous êtes très proche, hein, et qui est soupçonné de financer le terrorisme.
Oui, bon. Donc, qu'on cause foot, politique ou météo, j'ai toujours une affaire au cul, c'est ça que vous voulez dire.
C'est pas de notre faute, hein, on va vous laisser. Merci, M. Sarkozy.
C'est plus comme avant, Europe.
Toute la nuit, BFM TV a suivi la présidentielle américaine. Marc-Olivier Fogiel, vous dirigez la chaîne. Bonjour. Marco, on est en direct. Marc-Olivier.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pardon, Julia.
Oui, bah oui.
Excuse-moi, non, j'ai eu un coup de barre. Hein. Non, je suis claqué. Hein. Donc, toute la nuit, je me suis fadé leurs élections aux Américains, à compter les résultats. Texas, 3 grands électeurs. Wisconsin, 12 grands électeurs. Non, c'est plus une présidentielle, c'est l'Eurovision, leur truc. Ah, franchement, Alabama, 4 points pour Donald Trump. Minnesota, 20 points pour Joe Biden. Non, bah, c'est une compète de patinage artistique. Hein.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce duel Trump-Biden?
Bah, ça annonce rien de bon pour les États-Unis et pour le monde. Quand tu te dis que sur 330 millions d'habitants, d'Américains, les deux meilleurs, l'élite de l'élite, c'est ces deux-là. Ah, si, si, ces deux-là, Trump et Biden. C'est ce qui se fait de mieux. Imagine le niveau des autres. Ah non, ça fait peur pour la suite.
Mais c'est une bonne analyse, finalement. Merci, Marco.
Bah, ouais, finalement, je ne dis pas que des conneries.
Ah, le duel Trump-Biden ne prendra probablement pas fin aujourd'hui. La compétition va rester féroce hein, jusqu'au bout.
Oui, ma chère Julie, une fantastique compétition, un match de titans a eu lieu pendant cette campagne. Dans le coin gauche, Joe Biden, 77 ans, le grabateur démocrate, le François Bayrou du Delaware, le favori de cette élection. Et puis dans le coin droit, Donald Trump, qu'on ne présente plus, 74 ans, 74 de QI, 74 procès au cul. Une belle cohérence pour le Vladimir Poutine américain, pour le Marine Le Pen à testicules et cette question. Oh là, qui désormais va pouvoir prétendre au titre suprême?
Le titre suprême, c'est président américain, c'est ça?
Non, ma chère Julie, ne faites pas erreur. Le titre suprême, c'est dirigeant le plus grotesque du monde. Un titre qui nécessite d'être à la fois imbu de soi-même, magouilleur, incompétent, tyrannique et idiot. Donald Trump avait ravi ce titre à Silvio Berlusconi en 2016, qui lui-même l'avait dérobé à Mobutu. Et là, c'est vrai que le président turc Erdogan est placé en embuscade pour ravir cette médaille de la plus grosse tête de con mondiale. Joe Biden est totalement décroché. Kim Jong-un, le Nord-Coréen, est bien placé, ainsi que l'outsider, le roi de Thaïlande, vous savez, celui qui s'était confiné en Allemagne dans un hôtel avec des gonzesses. Encore quelques heures et nous serons fixés, nous coronnerons donc le roi des cons à vous parler.
Merci Nelson. Il a oublié Bolsonaro, en fait. Allez.
Au passage.
Boum. Elle est pointue.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé hier un couvre-feu en plus du confinement, mais Matignon a démenti dans la foulée. On est avec le Premier ministre Jean Castex. Bonjour.
Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Bayard, Monsieur Cabrol, toute la rédaction. Permettez-moi de réagir à l'actualité et de féliciter Donald Trump et Joseph Biden. Oui, pour leur éventuelle élection, vu qu'on n'en a savons rien. Donc, hello, permettez-moi de leur dire un mot dans leur langue maternelle. Hello and congratulations. To you for your election, Donald Trump, Joseph Biden, if you gagne. Comme ça, voilà. Les deux sont faites. Voyez que je sais m'avancer dans mon travail. Et excusez-moi, parce que je suis un peu encore dans les dossiers sur les petits commerces. Les librairies doivent fermer leurs librairies, ça c'est cohérent. Les fleuristes doivent fermer leur floristerie, c'est cohérent. Gabriel Attal doit fermer sa gueule, c'est cohérent, parce que sinon, il annonce n'importe quoi.
Mais c'est pas à l'étude, si?
Et cette ce confinement couvre-feu, si. Mais ça devait être une surprise, et là, je dois dire que Gabriel Attal a tout gâché.
Donc vous y pensez bel et bien au couvre-feu, alors?
Madame Julie, pendant cette période du confinement où les Français ne doivent pas sortir, c'est vrai que je réfléchis à un couvre-feu pour qu'ils sortent encore moins que pas du tout. Cette mesure, bien sûr, sera débattue, évidemment.
Mais par qui?
En bonne et due forme.
Par qui?
Par Emmanuel Macron, tout seul, comme d'habitude.
Bon, mais vous comprenez qu'on n'y comprend plus rien, justement, hein?
Écoutez, c'est pourtant très simple. Chaque citoyen, je le dis à vos auditeurs, ne pourra pas sortir, sauf bien sûr arrêté municipal, à condition qu'il ne soit pas retoqué par le préfet, à condition bien sûr de disposer en bonne et due forme sur soi une attestation, sauf bien sûr, vous l'aurez compris, en période de couvre-feu dans les départements où le taux d'incidence est en hausse. Pour autant, oui, Monsieur Béliard, je vois que vous suivez, sans pour autant subroger au reconfinement, sauf pour les départements indispensables, y compris les commerces non essentiels, ayant mis en place, avec l'aide et le soutien du ministère du Commerce, un dispositif de clink un collègue dans les horaires prévus. J'étais d'ailleurs, vous souriez, mais j'ai d'ailleurs été sollicité pour organiser les prochaines élections américaines.
Sonia Mabrouk et son invité Jean-Yves Le Drian.
Mon invité, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, bonjour. Alors l'élection américaine, quelle serait la meilleure option pour la France? Joe Biden? Donald Trump?
Écoutez, Madame Mabrouk, non, nous n'en sommes pas là. Hein, les États-Unis, donc, ce sont un grand pays, hein, une grande démocratie. Il est certain qu'un un président va sortir de cette élection, de ce grand pays qui sont les États-Unis, avec différents États qui ont chacun leurs règles. Et on fait confiance à leurs institutions. Et puis, on ne va pas se mouiller, hein, parce que non, bah, imaginez. S'il y en a un qui est élu et que c'est pas le bon, on aura l'air malin.
Mais quand même, regardez-moi dans les yeux, Jean-Yves Le Drian. Regardez-moi dans les yeux. Mais quand même, Biden, ce serait quand même un choix meilleur pour la France, non, Jean-Yves Le Drian?
Oula, non, mais écoutez, vous savez, on n'en est pas là. Hein, les États-Unis sont un grand pays, hein, une grande démocratie. On va pas. Non, je me mouille pas. Vous savez, j'ai pas pris mon maillot. Hein, je vais pas risquer quoi que ce soit. Vous savez, j'ai passé 40 ans à bosser avec Hollande. Si j'étais du genre à avoir des opinions tranchées, ça se saurait. Hein, j'aurais pas fait la même carrière.
Mais Trump, qu'en pensez-vous? Mais regardez-moi dans les yeux, bordel, Jean-Yves Le Drian.
Non, mais je peux pas. Non, mais moi, vous savez, ça fait. J'ai que 40 ans d'expérience dans la politique. Donc, je regarde mes filles. Je veux pas dire de conneries. Et puis, en plus, ma femme regarde l'interview. Si elle voit que j'ai regardé autre chose que mes chaussures ou mes filles, je vais me faire engueuler. J'ai aucune. Ça fait 40 ans que je dors dans le lit conjugal, j'ai aucune envie de me retrouver à dormir sur le canapé. Non, moi je suis venu pour ne rien dire, Madame Mabrouk, hein, ne rien faire d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais même pas là. Ça y est, vous souvenez même pas que je suis passé.
Merci pour cette interview fantôme, Jean-Yves Le Drian.
Merci Sonia.
À vous Julie.
Merci Sonia. Tout de suite, on va retrouver les titres avec vous, Mathieu Béliard. Europe 1.
Mathieu Béliard.
Voilà, ça va aller. Oui, non, pardonnez-moi, j'ai déjà Jean-Yves Le Drian qui regardait tellement ses chaussures qui s'est mangé la porte du studio. Oui, pardon, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe One avec ce jingle américain, vous l'avez entendu. Je suis impatient de voir quel jingle nous aurons pour quand nous suivrons l'élection au Mexique. Ça va être ambiance salsa sur Europa Une. Voilà. L'actualité ce matin, c'est toujours, oui, j'ai fait un bide. C'est toujours l'élection qui se déroule aux États-Unis. Les États-Unis, il faut le dire vite, unis, pas vraiment, pas du tout même. S'il y a bien un pays au monde qui n'est pas uni en ce moment, c'est bien les États-Unis. On est plutôt dans les États désunis.
Oh,
en tout cas,
magnifique.
Joe, oui, c'est du travail. Joe Biden semble en avance, semble devant. Hier, j'ai dit tout le contraire. C'est la force d'Europe 1 de pouvoir changer comme ça du jour au lendemain, de passer, il fait beau, il fait pas beau.
Bon, ça, je connais.
Joe Biden, donc il semble être devant. Il a le soutien en plus des stars. Vous avez vu, Lady Gaga a fait dernier meeting avec Joe Biden. Comme ça, on avait d'une pierre deux coups, Lady Gaga et Papy Gaga en même temps. Et oui, à 77 ans, toute la famille Gaga était au grand complet. La France, en tout cas, est prête à accueillir le résultat. Et c'est vrai que, et effectivement, la France félicitera le vainqueur, quel qu'il soit.
Bonjour, Monsieur Bayrou.
Je suis en train... Oui, pardonnez-moi, vous me prenez en plein travail. Je suis en train de rédiger le discours pour présenter nos félicitations aux gagnants.
Mais c'est pas à vous d'écrire ça.
Si, car je suis, vous le savez, chargé par le président de la République de m'occuper de la France de dans 30 ans. Et vous l'avez compris, les résultats des élections américaines, on les aura dans 30 ans.
Eh bien, bon courage, Monsieur Bayrou, et merci à tous.
C'est pas mal trouvé, ça.
Ah, très bien, oui.
Appeler à Monsieur Béliard, alors ça me va.
Ça me plaît, tout va bien.
L'incertitude règne toujours aux États-Unis. On va en parler avec Jean-Michel Apathy. Bonjour.
Bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de R Mathieu Béliard. Écoutez, oui, c'est toujours l'incertitude, vous l'avez compris. On attend encore les 70 000 votes par correspondance du comté de Where is Brian en Pennsylvanie, ainsi que les 45 000 bulletins du district de Space Mountain dans le Michigan, 35 000 votes du comté de Pulp Fiction en Géorgie, 22 000 du district de Yellow Submarine dans le Wisconsin.
Oui, en tout cas, Donald Trump, lui, contestera tout résultat défavorable.
C'est vrai, oui. D'ailleurs, la Russie, la Corée du Nord et la Chine ont demandé à Donald Trump de respecter la procédure démocratique. Il est quand même étonnant, ce Donald Trump. Il veut qu'on ne compte plus en Pennsylvanie, mais qu'on recompte encore dans le Wisconsin. Je voudrais savoir, on compte ou on ne compte pas. En tout cas, on voit très bien que Donald Trump cherche jusqu'au bout à séduire les électeurs noirs en adoptant les méthodes des dictateurs africains. Pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Bref, on a, je vous l'ai compris, dans l'incertitude, on est inquiet pour Joe Biden. Vu son âge, on n'est même pas sûr qu'il soit encore vivant à la fin du dépouillement. On n'y comprend rien, 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 rien.
Merci Jean-Michel.
Mais de rien, 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 rien. Vanne de Julie.
Ah là là. Bon, allez.
Elle a fait rajouter le texte.
Mais c'était drôle, non?
Mais c'est super.
Alors, j'en rajoute, il faudra citer Julie dans les auteurs.
Donald Trump et Joe Biden sont âgés tous les deux, mais en forme de personnalités qui s'affrontent et qui
Pardon, excusez-moi. Et depuis le début de cette élection, vous faites intervenir absolument tout le monde. Et comme ça, je n'avais pas fait appel à moi. Mathieu Béliard se revendique être celui qui vous fait vivre, dit-il, un moment historique au cœur de cette élection. Nanani, nanani, nanana. Mais monsieur Béliard, vous n'avez pas le monopole du cœur, vous êtes au cœur, vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi aussi, je possède une expertise.
Alors, vous vous considérez expert en politique américaine, vous?
Non, mais je suis expert en vieux. En vieux, je m'y connais. Par exemple, Joe Biden, ça personne ne l'a noté dans la rédaction, Joe Biden a un meilleur dentier. Bien plus blanc, bien plus droit. Écoutez, le parallélisme. Alors, parfois, il bafouille. Donc, je dirais que la colle à dentier est peut-être meilleure chez Donald Trump.
Ces
bafouillis, ils
ne
sont pas étrangers.
Merci, bravo pour l'analyse.
Je m'y connais en analyse. J'ai encore fait 4 ce matin. J'attends aussi les résultats. J'espère avoir plus tôt que les élections européennes américaines. Alors, au niveau de la sénilité. Joe Biden a l'air en difficulté.
Ouais.
Ouais, vous l'avez noté, hier, dans son dernier allocution avec un mégaphone, il a confondu ses deux petites filles. Et je dirais que Donald Trump n'est pas au top non plus. Vouloir boire de l'eau de Javel pour soigner le coronavirus, normalement c'est vers 95 ans qu'on tient de pareil raisonnement.
Ah, ça, oui, il y a des chances. Alors.
Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Oh, monsieur Giscard. Non, monsieur Giscard d'Estaing, je vous avais dit de ne pas embêter Mme Julie avec votre analyse. Oh, oui, on vous a entendu 100 fois en parler pendant l'atelier puzzle. Alors, Mme Julie, c'est Christiane.
Oui, bah bien
je
sûr,
peux vous
prendre.
Oui, la maison de retraite. Oui. Désolé. Non, il a encore joué avec le téléphone. Je suis désolé, je m'excuse auprès de tous vos auditeurs. Vous savez, cette élection avec deux personnes de leur âge qui peuvent remporter les États-Unis, ce grand pays. Oh, mais ça leur donne des ailes à nos pensionnaires. Oh, ils tous, ils veulent faire la politique maintenant. Non, non, monsieur Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'on dit gentiment à madame Julie?
Au revoir.
Ah, magnifique. Ah, c'est mieux que mes blagues à moi. Hein. Bon, allez, la quantité.
C'est humour 1920.
La quantité de votes hispaniques qu'a reçu Donald Trump pour gagner la Floride est étonnante. Alors qu'il les considère comme des étrangers, il a multiplié les discours racistes à leur encontre, jusqu'à vouloir ériger un mur, on le sait, sur la frontière mexicaine. Bonjour Marine Le Pen, vous vouliez réagir?
Oui, oui, bonjour Mme Leclerc, bonjour M. Cabrol. Et oh, bonjour à mon frère, et Jimmy Mohamed. Je te passe le salam, mon frérot. Ça va la famille? Comment va la Mifa? Et mon joli métis, que j'ai toujours admiré, comme tous mes cousins Renoir et Rebeul.
Oui, bon, écoutez, n'en faites pas trop quand même. Hein. Alors, pourquoi les Hispaniques ont-ils voté pour Donald Trump, à votre avis?
Non, écoutez, j'écoutais les résultats en mangeant mon mafé. Mon Yassa et mon Thieboudienne. Et effectivement, j'étais surprise. Surprise par ce vote latino pour Donald Trump aux dépens de M. Bidet. Bidet. Il y en a le charisme et l'utilité. Comme quoi les minorités, comme mes frères maliens, mes frères sénégalais, mes Ramza, peuvent voter pour un candidat patriote. Black Lives Matter, Black Vote Matter, j'ai envie de dire.
Bien.
Et nous mettrons fin à la domination des Blancs. Inch'Allah, Nardik Bebek, le système, les rouillards.
Attention. Donald Trump n'a pas dragué, comme vous le faites, les latinos et les minorités. Et c'est pour ça que c'est étonnant. Il les a stigmatisés, mais ils ont quand même voté pour lui.
Attendez, qu'est-ce que vous dites là? Maintenant, quand on stigmatise les minorités, elles votent quand même pour vous?
Bah, apparemment. Hein.
Ah oui, ça change tout. Alors je peux enlever ce boubou et ce collier avec un chasse-mouche. Et je peux donc désormais dire la vérité. Hein. Les Arabes sont des voleurs, les musulmans des terroristes, les Noirs ont le rythme dans la peau. Voilà, Jimmy Mohamed, votre charter vous attend. Monsieur Béliard vous accompagnera jusqu'à Bamako, je ne sais où. Vous serez très bien tous les deux à broder des tapis hein, ou à sculpter des fétiches. Madame Julia, vous êtes sûre qu'en leur parlant comme ça, ils vont voter pour moi ?
Bah, essayez.
Moi, j'y comprends plus rien, 2020, moi.
Américaine Election, bienvenue sur Europe 1.
Voilà, on y est.
Europe 1, Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changé. Listen to the world changing. L'actualité, ce matin, the actuality, c'est Joe Biden, qui n'a jamais été aussi proche, disons-le, de la Maison Blanche. Tout de suite, la réaction de Donald Trump. Allez, on se calme. Qu'est-ce que c'est ce gros chagrin hein, c'est un caprice, là, Donald. Oh là là, les gosses du livre. Franchement, les gosses, c'est quand même fou. Donald Trump demande à ce qu'on arrête de compter parce qu'il veut gagner, mais on se rend compte que si on arrête de compter maintenant, il paume. Voilà. Et je vous fais une confidence, c'est ce gars-là qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Enfin, ça devrait bientôt être Joe Biden. Mais au fait, tiens, Europe 1 va plus loin. Qui est Joe Biden ? Un petit point avec vous, Stéphane Bern.
Europe 1. I promise you this. I am your voice. American election.
Oh là 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 là, merci Mathieu, dis donc, ça c'est du jingle pour me lancer. Oui, allez, un peu d'histoire. Découvrons donc, et découvrons celui qui est le plus vieux candidat à la présidentielle américaine, Joseph Robinette Biden. Déjà, ce deuxième prénom est fantastique, ouais. Robinette.
Oui, c'est son middle name, on a vérifié sur Wikipédia. C'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Joseph Robinette Biden.
C'est fou, ce sont...
C'est dingue, hein.
C'est Robinette Biden, voir. C'est comme si... C'est comme si vous vous appeliez, cher Mathieu, Mathieu Lavabotte Béliard. ou, je ne sais pas, Laurent Siphonette Cabrol.
Voilà,
c'est ça.
Enfin, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Alors, revenons à Joe Biden, Stéphane.
Alors, on sait très peu de choses sur l'enfance de Joe Biden, puisqu'il est né avant l'invention. Il y a très peu de documents. Il est né avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1454. Fils des migrants, il est déjà proche du pouvoir puisqu'il arrive en Amérique avec Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb, le célèbre frère de Gérard, qui lui a fait une belle carrière en France. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous narrerai une autre fois. Joe Biden s'intéresse ensuite à la politique au niveau national, grâce à son camarade de classe, Abraham Lincoln. Il aurait pu être enrôlé lors de la guerre de sécession ou de la Première Guerre mondiale, mais heureusement, il a déjà 60 ans en 1914. Et ses rhumatismes lui permettent d'être réformé.
Allez, mais vous racontez n'importe quoi, Stéphane, allons.
Oui. Ça s'est vu.
Oh, ça s'est un peu vu, oui.
Non, je suis désolé. Oui, pardon. Non, c'est vrai, je me suis un peu emballé. Non, c'est parce que je vais vous dire une chose. Je voulais pas vous lasser parce que sa véritable histoire, Joe Biden, elle est un peu chiante. Pardonnez-moi d'être trivial. Oui, parce qu'il est né au siècle passé. Voilà, qu'a-t-il fait de la politique ? Puis un peu de chirurgie esthétique, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait de lui. On sait simplement qu'il a abusé un peu trop sur le Botox, mais que son dentier est tout de même assez réussi. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme le pape, il va gouverner à vie jusqu'à sa mort, puisque ce sera dans 6 ou 8 mois, d'après nos prévisions. Voilà, enfin, c'est Jimmy Mohamed qui l'a confié. Voilà. Lundi, je vous parlerai de Donald Trump en vous racontant d'où vient l'expression « con comme un balai ». À vous, Julie.
Oh bah vivement lundi, alors.
Avec Mathieu Noël.
Merci. Allez, un genre de couvre-feu est désormais décrété à Paris. Les restaurants ne pourront plus faire de vente à emporter après 22h. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à tous les Parisiennes et les Parisiens. Écoutez, ce n'est pas de gaieté de cœur. Car Paris, de fermer, d'avoir ces points de vente qui ne pourront plus donner de choses à emporter après 22h. Ouais. Parce que Paris se meurt. Sans ces petits commerçants, sans ces marchands typiques qui font le charme de notre belle capitale qu'est Paris. Les marchands de cigarettes de contrebande à Barbès. Les Congolais, charmants Congolais qui vendent des tours Eiffel en plastique et des petits chapeaux en forme de parapluie près du champ de Mars, tellement séants. Les joueurs d'accordéon de la ligne 13. Les faux réfugiés syriens qui ont des panneaux en carton avec des fautes d'orthographe faites exprès. Tous ceux qui contribuent à la vie commerciale et au charme de Paris. Tous les jours, je pense à eux.
Tenez bon, ami commerçant.
Allez, bah, qu'ils vous entendent alors. Merci, Anne Hidalgo. Bruno Le Maire, lui, a listé les fameux produits essentiels par décret. Mais la situation n'est pas encore claire hein, pour tous les commerçants. Certains se rebellent. Tiens, d'ailleurs, on retrouve notre ministre de l'économie. Il est dans un supermarché.
Chers adhérents, chers clients, bienvenue dans votre magasin Super U. Voici la liste des produits essentiels que vous trouverez à votre disposition dans les rayons. Les granolas sont classés essentiels. Pépito, essentiel. Les Pimps, pas essentiel. Hein, ce chocolat avec de l'orange dedans, c'est dégueulasse. Ça doit être des Anglais qui ont dû faire la recette. Les BN chocolat, essentiel. Les BN à la fraise chimique, pas essentiel.
Monsieur Le Maire, vous êtes sur Europe 1, là, c'est Julie.
Julie, pas essentiel.
Non, mais ça va pas.
Si,
merci
si.
Beaucoup.
Faillot.
Alors, les Français sont mécontents de la fermeture des petits commerces. Ils auraient aimé avoir plus d'endroits, plus de lieux pour faire leurs courses.
Non, mais franchement, Madame Julie, les Français n'ont pas arrêté de râler parce que, soi-disant, ils payaient trop d'impôts. Mmh. Hein, soi-disant, ils ne s'en sortaient plus financièrement.
Ah, ouais.
Et là, qu'est-ce qu'on constate? En première pandémie mondiale, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est du shopping. De qui se moque-t-on, en tout cas? Franchement, si j'avais su, si on avait su qu'il leur restait autant de pognon, on leur aurait pris. Hein,
ah, allez, bon, il y a encore...
Autant vous dire qu'on est un peu sec en ce moment.
Oui, c'est ça, ouais, ouais. Il y a encore quelques flous, par exemple, sur les produits cosmétiques. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas?
C'est un vrai débat.
Bah oui. Écoutez, bah oui.
Par exemple, un déo. On entend ce studio. Je me suis dit, tiens, c'est essentiel.
Oh, c'est pas le métro ici, alors.
Vous êtes, on sent que vous êtes attaqué tôt le matin. Dans le métro, c'est essentiel, un déo. Chez les chauffeurs parisiens, plein de gens. Voilà, c'est essentiel. En revanche, les produits de maquillage ne sont pas essentiels.
Uh-huh.
Alors vous allez me dire, si, le produit de maquillage peut être essentiel pour une moche. Par exemple.
Arrêtez.
Donc nous rajouterons un décret dans votre attestation de course, une case marquée « Je suis moche, j'ai besoin de maquillage ». Voyez, on s'adapte au gouvernement.
Ah oui, oui, on voit ça. Oui, merci Bruno Le Maire.
Je laisserai quelques exemplaires dans l'entreprise Europe 1.
Merci à vous. Emmanuel Macron a annoncé hier des contrôles renforcés aux frontières pour lutter contre l'islamisme. Pourtant, Éric Ciotti a déclaré « Nous combattons l'islamisme avec des boulets aux pieds ». Éric Ciotti, bonjour.
Oui, bonjour Mme Leclerc. Écoutez, avant toute chose, je voulais revenir sur les propos de Bruno Le Maire. Le shampoing, ça n'est pas essentiel.
Vous parlez pour vous, là?
Les éponges, si. Les éponges. Parce qu'il faut bien se coiffer, M. Cabrol. Mais pas le shampoing. Enfin,
oui, bon,
je ne le crois pas. C'est ma conviction personnelle.
Oui, c'est bon, M. Ciotti. On peut revenir sur les propos d'Emmanuel
bien
Macron.
Bien sûr, des éponges normales, pas du scotch brite.
Scotch brite, oh là là, ça doit faire mal. On peut revenir sur les propos du président de la République.
Oui, écoutez, Emmanuel Macron peut bien prétendre qu'il agit, mais nous ne sommes pas dupes. Le gouvernement ne fait rien. Et en plus, quand bien même, il le fait mal. On combat, je l'ai dit, je le répète, les islamistes avec des boulets aux pieds.
Oui, bon, ça va, on a compris. Christian Estrosi veut une loi pour légaliser la reconnaissance faciale.
Écoutez, ça me fait mal de le dire, mais Christian Estrosi a raison. Il a raison. Oh,
ça vous fait mal.
Oui, ça me fait mal de le dire. Ah oui, je ne redirai pas deux fois. Il faut légaliser la reconnaissance faciale.
Mais enfin, on a tous un masque en ce moment, ça ne va jamais marcher.
Oui, alors c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu con, du coup.
Ben oui.
Mais en même temps, nous ne sommes que des hommes. Comment voulez-vous qu'on reconnaisse un musulman d'un islamiste? Il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut y arriver. Parce que pour moi, je vous dire une chose, c'est tous les mêmes, c'est des Arabes. Voilà.
Oh là là, oui, bon, effectivement, il vous manque une intelligence artificielle. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut un Guantanamo à la française?
Évidemment, ça me paraît, un Guantanamo à la française, ça me paraît tout à fait concomitant. Oh. Hein. On arrête des terroristes tunisiens, mais la Tunisie, elle ne veut pas les récupérer. Il faut bien les mettre quelque part, Mme Julie, allons.
Bah oui.
Bah oui, il faut les mettre quelque part.
Bah oui, mais oui, il faut les mettre quelque part. Vous avez encore quelque chose à dire, mais on va passer à autre chose.
Non, mais vous devez me poser la question où, par exemple, concrètement.
Bah non.
Puisque je dois tout faire et les questions et les réponses. Mais non, bravo, Europe 1.
Où, par exemple, alors
Eh bien, où pourrait. Vous soupçonnez qu'il faudrait construire un camp fermé en quelques jours, ce n'est pas possible. C'est ça que vous voulez me dire. Mais écoutez,
bah oui.
Ce camp fermé, ce camp clos, il existe. Disneyland a fermé ses portes jusqu'à février. Je peux vous dire qu'un terroriste islamiste radical qui va entendre 24 heures sur 24 la musique du parc. Forcément, comme nous tous, à la fin, le type, soit il se suicide, soit il avoue tout.